Comment l'espace peut-il influencer les émotions? C'est un tout nouveau sujet que nous découvrons ce matin, Isabelle Duché.
Vous êtes-vous senti déjà mal à l'aise dans une pièce particulière ou au contraire, est-ce que vous avez éprouvé du bien-être en pénétrant dans un certain bâtiment? Ces émotions sont aujourd'hui scrutées par les neurosciences. Celles-ci, croisées avec l'architecture, constituent la neuroarchitecture. Elle permet de comprendre comment et pourquoi l'homme réagit de telle ou de telle façon face à un endroit donné. Et c'est d'autant plus important dans cette année où nous mettons le focus sur la santé mentale et nous verrons pourquoi ça a un lien avec la neuroarchitecture. Et pour nous faire découvrir cet outil, nous sommes avec Marion Tricoire, architecte d'intérieur, et Emmanuelle Lopez, décoratrice d'intérieur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire, parce qu'il faut qu'on comprenne d'où ça vient, cette neuroarchitecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été découverte cette discipline?
Alors, on pourrait parler...
Emmanuelle Lopez.
Bonjour. On pourrait parler de civilisations anciennes qui avaient déjà compris l'impact du bâtiment sur notre ressenti, nos émotions et nos comportements. On peut penser aux cathédrales, aux temples ou aux jardins zen qui étaient conçus pour apporter du calme et du recueillement. Mais c'est en 1950 que le chercheur Jonas Salk, qui cherche le vaccin contre la polio, puisqu'à l'époque il y avait une grande épidémie de polio aux États-Unis, il commençait un peu à stagner dans ses recherches, donc il a décidé de partir en retraite en Italie dans un monastère, une retraite personnelle et professionnelle. À son retour, il a trouvé le vaccin et il a commencé à s'interroger sur l'influence qu'avait eu l'environnement du monastère sur sa pensée scientifique.
Oui, donc un lieu qui était calme, paisible, un beau lieu. Et finalement, ça l'a inspiré et ça a déclenché, ça a mis le point final à sa recherche pour mettre en place le vaccin de la polio.
C'est ça.
C'est ça. Et alors après, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pris le pas sur Salk?
Salk, pardon. Du coup, dans les années 60, il a contacté l'architecte Louis Kahn, qui était connu pour son approche de l'architecture très émotionnelle, voire même spirituelle. Et ensemble, ils ont fondé l'Institut Salk en Californie, dont l'architecture est pensée pour stimuler la créativité scientifique. Donc, ils ont essayé de reproduire les conditions environnementales du monastère avec une grande visibilité sur l'océan, par exemple, un maximum de lumière artificielle, naturelle, pardon,
plutôt, oui.
Au contraire, une circulation fluide de l'air et du personnel. Pour mettre en condition les scientifiques, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour leur recherche scientifique.
Et de fait, ça a marché. On sait qu'il y a eu des résultats grâce à cette disposition, la lumière, cet aspect paisible.
Oui, tous les chercheurs du pays venaient pour faire leur recherche ici parce que les conditions étaient idéales. Voilà.
Ouais.
Par contre, il faut attendre 1998 pour avoir la première preuve scientifique directe de l'impact sur le lieu sur le cerveau, avec Fred Cage qui a montré que la neurogénèse est plus stimulée par un environnement favorable.
Oui, et ça, c'est grâce à son travail de neurosciences, en fait, c'est ça?
C'est ça. On est encore dans les laboratoires à cette époque-là et toutes les études se font dans les laboratoires.
Donc ça, c'est 1998 et depuis, est-ce qu'on a encore avancé?
En 2003, John Eberhardt crée l'Académie des neurosciences de l'architecture, pour l'architecture, la NFA, et c'est la naissance officielle du terme neuroarchitecture et la reconnaissance institutionnelle du lien entre le cerveau et l'espace.
D'accord. Donc là, on est 20 ans plus tard, 21 ans, même 22 ans, pardon, parce qu'on est en 2025. Alors on pourrait se dire que c'est un domaine réservé aux spécialistes de l'esthétisme et qui concernerait qu'une petite partie de la population, les architectes, les designers. Et puis en fait, on se rend compte que là, ça a rendu service, cette neuroarchitecture, à des scientifiques. Mais finalement, en quoi elle est universelle?
Elle est universelle...
C'est-à-dire en quoi elle peut concerner non seulement des professionnels, donc des scientifiques, mais aussi tout un chacun.
Vas-y.
Marion Tricoire.
Elle est universelle parce que par rapport à son application, c'est un outil qui combine la neuroscience, la psychologie et l'architecture, comme le disait Emmanuel, de par entre autres sa mise en place. Elle s'intéresse à la façon dont l'espace influence le cerveau, les émotions et le comportement. Et en fait, c'est par son application qu'elle devient universelle. On passe quand même 90% de notre temps à l'intérieur. C'est à la maison, c'est votre bureau quand vous allez au travail, c'est à l'école pour les enfants et qu'ils apprennent, à l'hôpital pour se faire soigner, les EHPAD pour nos personnes âgées et la fin de vie. Et en fait, il y a vraiment la notion, de par justement ces études scientifiques qui ont été faites, de prouver, de montrer que chaque espace a un impact direct sur les émotions, la concentration, notre énergie et notre santé. Donc, comme vous l'avez dit au démarrage, souvent on est chez soi et puis on ne se sent pas forcément des fois très bien. On est fatigué, on est stressé, alors que ça devrait être quand même le cocon.
Mmh. Un lieu de ressources, oui.
Exactement. Et justement, la neuroarchitecture, ça repose vraiment sur le principe que le lieu influence notre état intérieur, dans tous les sens d'ailleurs, l'intérieur par son environnement et notre intérieur à nous. Et le fait que c'est universel, c'est que comme il est un outil, c'est un outil de conception en pleine conscience. Donc c'est un outil, on va dire, qui est plus voué aux architectes et décorateurs parce que c'est dans le cadre de la conception, mais que vous appliquez partout.
Oui, c'est ça.
Donc, ça peut démarrer par une étude de plan avec un constructeur, par exemple. Ça s'applique aussi en complément d'une thérapie. Donc, vous êtes en dépression, en burn-out. On parlait de la santé mentale qui est cause nationale sur 2025. Donc, typiquement, c'est le fait d'accompagner les personnes. Donc, par exemple, dans le cadre d'une thérapie, tout ce travail que vous faites dehors, de le ramener aussi chez vous. L'aménagement que vous avez chez vous correspond à l'état d'esprit du moment. Donc, si vous êtes, par exemple, pas bien, c'est conservé. Cet état d'esprit est conservé dans votre habitat, alors que dehors, vous êtes en train de vous faire soigner, d'être aidé. Mais au final, ça s'applique les familles neuroatypiques, par exemple. Mais en bref, c'est un outil qui est... il n'est pas réservé qu'aux particuliers. Ça ouvre des perspectives énormes sur le monde du travail, de l'éducation, du soin, et le but, c'est d'améliorer la qualité de vie.
Oui, bien sûr. Alors, vous avez un exemple très concret à nous partager, puisque vous parlez de santé mentale, Marion Trécois. Vous avez travaillé sur un projet pour améliorer un espace pour que votre client se sente mieux, parce qu'il était en difficulté, en burn-out même, vous m'avez dit.
Oui, tout à fait. On a eu le cas d'une jeune femme qui a fait un burn-out et qui avait eu en parallèle une rupture. Et elle nous a contacté pour qu'on voit un peu au niveau de son habitat. Donc, on a eu dans le déroulé, si vous voulez, il y a quand même toute une partie questionnaire, on va dire. L'idée, c'est pas d'être intrusif, ni de mettre mal à l'aise la personne, bien au contraire.
Mais vous avez besoin de comprendre quand même.
Exactement. Étant donné que la démarche, c'est pas uniquement esthétique, on est là pour faire de l'esthétique, c'est la base du métier de l'architecte et
du
décorateur.
Oui, du beau, et en tout cas, c'est ce que vous disiez au début, Emmanuel Lopez, dans ce chercheur qui avait, Jonas Salk, qui avait fait des recherches dans ce monastère en Italie. On se doute bien qu'il faut que ce soit beau quand même.
Il y a une partie esthétique, ouais. Ouais, qui évidemment est là, mais c'est de l'esthétique avec du sens. Au même titre que le métier d'architecte, on lui demande de faire de l'esthétique et du fonctionnel. Aujourd'hui, c'est de rajouter le paramètre du sens, de la pleine conscience. Mmh. Et cette jeune femme, du coup, avait un environnement... pour vous donner du coup quelques exemples, elle était la notion burn-out, faut quand même littéralement, ça signifie se consommer de l'intérieur, c'est quand même pas anodin. C'est le syndrome de l'épuisement professionnel qui a été reconnu par l'OMS, mais il y a quand même cette notion de se consommer à l'intérieur, donc le fait de ne plus forcément d'avoir d'interaction au niveau social, un repli sur soi, de se renfermer. Mmh. Et dans son environnement, il y avait des dominantes au niveau des couleurs, parce que la neuroarchitecture regroupe l'impact de la lumière. Il y a tout l'aspect du toucher dans son environnement, le rapport à la matière. Il y a la
lumière hein, dont vous parliez, Emmanuel Lopez aussi. Ouais.
La lumière, pardon, la biophilie.
Alors, c'est quoi la biophilie ?
La biophilie, c'est faire entrer la nature dans les intérieurs. Ah, c'est tout ce qui touche à la nature.
Et donc, concrètement, vous avez fait quoi pour cette femme pour que finalement, elle se sente bien dans son habitat ?
Alors, on a travaillé sur la psychologie des couleurs.
Oui.
Donc, elle avait un environnement qui était dans des dominantes de gris et de blanc. Donc, le gris et le blanc, c'est des couleurs qu'on retrouve un peu partout.
Ah oui, oui, c'est assez universel. Oui,
oui assez. Alors que ça a une connotation, surtout dans ce cadre-là, le gris ramène à l'univers du travail. Il y a pas mal d'associations avec des expressions, le jeu de la matière grise.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, on est dans tous ces codes de réflexion permanente qui laissent dans ce contexte professionnel. Mmh. Donc,
vous avez apporté de la couleur.
Exactement.
Mmh. Quoi, par exemple ? Du jaune, des couleurs très chaudes ?
Alors, on a apporté un peu de rose parce que le rose aide à la reconstruction personnelle et émotionnelle.
D'accord.
Plutôt travailler dans la douceur.
Voilà.
Et puis après, dans les volumes, parce qu'on ne peut pas non plus changer tout son appartement et casser toutes les cloisons. Enfin, voilà, c'est pas
à la partie de chacun. On a travaillé principalement sur sa chambre parce qu'elle avait des troubles du sommeil. Donc, on a travaillé principalement la chambre.
D'accord. Et dans ce cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer l'orientation du lit ? Ça veut dire tamiser la lumière avec des rideaux ? C'est des détails comme ça ?
Elle manquait de lumière, elle, justement. Ah. Donc, on a essayé de faire rentrer la lumière par des beiges qui réverbèrent la lumière.
Ah oui.
Les formes arrondies dans le mobilier pour venir compléter ça rassure. La douceur. Exactement. Travailler sur les textiles aussi. On a pas mal apporté la douceur. Voilà.
La douceur, le moelleux.
Oui, l'aspect réconfortant finalement, ouais, cocooning. Ouais,
exactement, pour l'aider à la reconstruction d'elle-même.
Pour terminer, par exemple, vous avez parlé des EHPAD. On voit bien que les bâtiments, ils sont ce qu'ils sont. Ils doivent être fonctionnels et pratiques pour tout le personnel qui y travaille. Quelles sont les astuces que vous déployez pour rendre ces lieux plus chaleureux ?
Alors, il y a au niveau de la matière, tout ce qui est végétal. En fait, l'idée, c'est de laisser dans les EHPAD une connotation de vie. Et bien souvent, quand une personne âgée rentre dans ces maisons, malheureusement, les perspectives de vie sont moindres. Ça les ramène tout de suite à « ça y est, je suis en course ».
Oui, c'est la fin. Ouais.
Exactement. Mmh. Et la démarche, c'est d'amener justement de la vie, de la perspective, ou au moins sur qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, c'est jouer sur la matière, justement ce jeu de textile, de la douceur, du végétal, de la nature, parce que c'est ce qui ramène à l'extérieur et à la vie.
Ah oui.
Le travail de la lumière, qui est très, très important, et qui est toujours une notion un peu de repère aussi dans le temps, que les personnes âgées puissent savoir qu'il y a un lendemain et que le travail de la couleur, ça va être des jeux un peu de couleurs stimulantes, apporter du soleil à l'intérieur et que la vie continue.
Oui, voilà, et ça, c'est effectivement plein d'espérance. Alors, pour préciser, vous allez vous proposer un temps d'échange le 6 novembre à 14h30 au Grand Café Le Florida à Toulouse. Il y en avait un à 19h30, mais voilà, vous rencontrez un grand succès, une grande demande. Donc, il y a cette autre possibilité. Et donc, pour découvrir cette neuro-architecture et tout le bien qu'elle fait aux personnes en difficulté ou en burn-out ou qui sont malades ou des personnes âgées. Je vous remercie Marion Trécoire et Emmanuel Lopez de nous avoir présenté cela ce matin. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.